Radio Okapi. Grande interview.
Comment se porte la RDC sur le plan de la santé publique? Où en est-on dans la lutte contre l'épidémie de choléra et les maladies tropicales négligées? Docteur Oli Ilunga Kalenga, ministre de la Santé publique, est l'invité de grande interview pour répondre à toutes ces questions. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Oli Ilunga, vous êtes ministre de la Santé publique. L'année 2017 s'est terminée. Quel bilan peut-on dresser de la situation sanitaire de la RDC?
Très bonne question. C'est vrai que tout le monde en fin d'année a eu les yeux braqués sur l'épidémie de choléra. Mais je crois que le bilan qu'on peut essayer d'abord de dresser de 2017, c'est de dire que c'était une année où nous avons surtout essayé de transformer tous les défis auxquels on était confrontés en opportunités pour transformer et améliorer le système de santé de la RDC.
La RDC est-elle gravement malade? Est-elle en convalescence ou elle est en train de sombrer, en train de mourir?
La RDC n'est certainement pas en train de mourir. Les gens ont souvent un regard fataliste et pessimiste sur la RDC parce qu'il y a une dimension qui est souvent sous-estimée, c'est la dimension démographique. Au cours des 10 dernières années, la population de la RDC est passée de 55 millions d'habitants à 78 millions d'habitants selon le rapport de la Banque mondiale. Ce sont sûrement des chiffres qui sont sous-estimés. Mais ça veut dire que en 10 ans, la population a augmenté de plus de 22 millions. Donc ça veut dire qu'en termes de santé publique, le challenge, le défi, c'est de trouver des infrastructures sanitaires, de développer une réponse sanitaire pour 22 millions d'habitants en 10 ans. C'est comme si en 10 ans, il fallait recréer un système de santé pour deux pays comme la Belgique et le Portugal en une fois. Donc en fait, la RDC n'est pas en train de sombrer. La RDC est en train de faire face à des défis qu'aucun autre pays au monde ne fait face aujourd'hui. Et donc c'est peut-être pour ça que les gens sont parfois pessimistes, mais je crois que c'est parce qu'ils n'analysent pas les choses sous un bon angle.
L'actualité en ce moment, c'est le choléra qui est en train de dévaster le pays. Plusieurs provinces sont déjà atteintes. Quelle est la situation aujourd'hui?
La situation du choléra est une situation qui est parfaitement maîtrisée. Il faut savoir qu'en fait, dans tout ce qui est épidémie, l'essentiel, c'est la prévention, l'anticipation et la force de la riposte. Donc dans le cas du choléra, il faut savoir que la flambée a commencé au mois de juillet. Les experts du choléra, les experts de la direction de la lutte contre les maladies ont attiré mon attention pour dire que les taux de choléra qu'on avait observés à Goma en pleine saison sèche étaient tout à fait anormales. Donc on était à près de 2000 cas par semaine, c'était exceptionnel et anormal. Et on a tiré la sonnette d'alarme et dès le mois de juillet-août, nous avons en fait créé un programme d'élimination du choléra avec en fait dans le programme deux volets, un volet de coordination et un volet aussi d'équipe d'intervention. Donc en fait, nous sommes sur le pied de guerre depuis le mois de juillet-août. Donc partout il y a eu des foyers de choléra, il y a une équipe d'intervention du programme national d'élimination du choléra qu'on a envoyé sur le terrain avec les fonds du gouvernement pour justement venir en aide au système de santé local pour parvenir à contrôler l'épidémie de choléra. Donc aujourd'hui, alors que nous avons atteint des sommets de presque 3000 cas par semaine à une période de l'année, nous sommes aujourd'hui sur toute l'étendue de la République à 600 cas par semaine. Donc nous sommes vraiment dans une situation où sur toute l'étendue de la République, toutes provinces confondues, Kinshasa, Kasaï, Sud Kivu, Nord Kivu, nous sommes aux alentours de 600 cas par semaine. Donc pour nous, c'est une situation qui est parfaitement maîtrisée.
La RDC a connu, ou est en train de connaître, une des épidémies de choléra les plus dures de son histoire. Est-ce qu'on dirait que la RDC est un des pays les plus sales au monde?
Le choléra est une maladie qui est liée à la salubrité de l'eau. Donc le vrai challenge du choléra, c'est un problème donc d'accessibilité à une eau de qualité. C'est vrai qu'il y a d'autres problèmes que nous ne devons pas ignorer, c'est les problèmes d'améliorer la salubrité, la propreté de notre environnement. Mais ça, c'est deux problèmes que moi, je voudrais séparer. On ne va pas dire qu'il y a le choléra parce qu'il y a des immondices. Non, ça, c'est une théorie moyenâgeuse. C'est deux problèmes différents. On doit être agressif sur la salubrité de notre environnement, doit améliorer la propreté de nos villes, la propreté de notre environnement. Nous devons élever nos enfants dans un environnement sain et propre. Mais à côté de cela, le choléra, c'est une problématique d'améliorer l'accessibilité de la population tout entière à une eau de bonne qualité, à une eau potabilisée.
Alors, une eau potable, quand on sait qu'en RDC, une plus grande partie de la population n'a pas accès à cette eau potable, c'est un véritable défi.
Effectivement, donc c'est un défi de développement. C'est-à-dire, et c'est la raison pour laquelle, avec le ministre du Plan, dans le cadre du plan de développement pluriannuel sur lequel nous travaillons, nous avons mis la question de l'eau comme vraiment une véritable priorité dans le développement de notre pays. Donc ça veut dire que dans les prochaines années, dans les plans quinquennal et décennal prochains, la question de la distribution de l'eau, de l'accessibilité à l'eau dans les grandes villes est une question donc qui est devenue une priorité nationale. Et je me suis battu pour que l'accessibilité à l'eau soit une priorité qui sera reprise dans le prochain plan décennal.
La population aussi a sa part de responsabilité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces millions de Congolais qui sont en train de nous suivre en ce moment?
Eh bien, l'élément le plus important dans la lutte contre le choléra, c'est un problème aussi donc de comportement. L'hygiène, la propreté, c'est un comportement, c'est d'avoir le réflexe de toujours se laver les mains avant de manger, avant de préparer la nourriture, se laver les mains après avoir été à la toilette, et toujours aussi avoir ce réflexe de séparer les points d'eau des toilettes et ainsi de suite. C'est tout un réflexe à acquérir au niveau de la population et de toujours rechercher aussi à potabiliser de l'eau. Et les moyens pour potabiliser de l'eau, c'est soit les tablettes chlorées qui sont les plus faciles, les plus accessibles. Faire bouillir de l'eau, ce n'est pas toujours possible dans toutes les conditions, mais c'est ce réflexe de dire une eau, c'est pas parce qu'elle est claire qu'elle est potable, donc il faut toujours s'assurer que l'eau qu'on consomme, l'eau avec laquelle on prépare les aliments, est une eau potable.
Vous avez dit tout à l'heure que la situation du choléra a été maîtrisée. Est-ce que les Congolais peuvent se tranquilliser en se disant que cet épisode malheureux du choléra est passé?
Nous ne sommes pas encore à la phase d'élimination du choléra dans notre pays. Donc le plan d'élimination du choléra est un plan qui est pluriannuel. C'est un plan qui a été mis sur pied il y a plusieurs années avec les équipes de Harvard, des équipes de Besançon, avec des équipes également de l'UNIKIN. C'est un plan d'élimination qui a été validé scientifiquement et c'est ce plan qu'on est en train de déployer sur plusieurs années. À côté de cela, lorsqu'il y a une flambée, il faut une riposte. Donc moi, je dois rassurer la population congolaise pour dire qu'aujourd'hui, face à la flambée du choléra, la riposte est très énergique, avec une expertise congolaise qui est efficace, certes en collaboration avec certains partenaires comme l'OMS et l'UNICEF, mais c'est vraiment une riposte qui est efficace et partout où il y a un foyer de choléra, il faut savoir qu'on envoie nos experts sur le terrain investiguer, venir en aide aux équipes locales et ensemble organiser la riposte. Le volet communautaire de la riposte est toujours important. C'est-à-dire que lorsque le choléra apparaît dans une communauté, il faut effectivement faire une investigation de comportement dans la communauté. Il faut sensibiliser les membres de la communauté. Il faut bien voir en fait les sources d'approvisionnement en eau de la communauté, s'assurer que tous ces points d'approvisionnement sont chlorés et alors aussi bien sûr sensibiliser la population, l'environnement atteint, les sensibiliser à adopter des mesures d'hygiène de base.
Le gouvernement congolais a beaucoup cherché le financement pour renforcer la lutte contre le choléra. Ce financement a-t-il été trouvé?
Donc, il faut savoir que on n'a pas longtemps cherché à avoir des financements. Comme je vous dis, le programme de lutte contre le choléra et les équipes d'intervention rapide ont toujours été déployées sur fonds propres. Donc, partout il y a eu un foyer de choléra, même au niveau du Kasaï, nous étions les premiers à être déployés au Kasaï, et c'est vraiment les équipes locales qui les premières sont arrivées pour contenir la riposte. La plupart des partenaires qui nous sont venus en soutien comme l'OMS, MSF et d'autres, en fait arrivent avec leurs fonds propres soutenir les actions, mais ce ne sont pas des sommes qui sont données au gouvernement. Donc tout ce que le gouvernement le fait sur fonds propres.
Radio Okapi. Grande interview.
Docteur Oli Ilunga, vous êtes ministre de la Santé publique. La RDC fait également face à des maladies tropicales négligées. C'est le cas de la maladie du sommeil. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en ce qui concerne la lutte contre cette maladie?
Alors, concernant la maladie du sommeil, je crois qu'il faut d'abord se dire que lorsqu'on parle de maladie tropicale négligée, c'est un concept qui est lié à l'OMS. Ce ne sont pas des maladies négligées par le gouvernement. Ça a toujours été des maladies qui sont négligées en termes de subsides et de grandes de recherches au niveau international. Pour nous, au niveau du gouvernement, tout ce qui touche à la santé publique de la population, c'est une priorité du gouvernement, et nous avons toujours été très engagés dans la lutte contre la maladie du sommeil. Et donc c'est grâce à cet engagement du gouvernement que, au cours des 20 dernières années, nous avons pu en fait réduire de près de 90% l'incidence de la maladie du sommeil. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes à une phase où il est possible d'éliminer la maladie du sommeil sur le territoire de la République. Et c'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, avec le Premier ministre, nous avons vraiment lancé, j'allais dire, cet assaut final pour éliminer la maladie du sommeil avec cette journée nationale d'élimination de la maladie du sommeil. Et c'est une initiative dans laquelle nous avons des partenaires mondiaux qui arrivent avec des nouvelles technologies pour justement traquer la maladie, les stratégies, même dans les coins les plus reculés.
Monsieur le ministre, que répondez-vous à certains détracteurs qui se posent la question de savoir si la RDC a vraiment un système sanitaire?
Ah, mais d'abord, il faut savoir que les soins de santé primaires, le concept est parti de la RDC, que pendant des années, la RDC avait un des meilleurs systèmes de santé en Afrique et dans la plupart des pays en développement, que beaucoup de stratégies de santé internationales ont été conçues en République démocratique du Congo. Je crois que ce qu'il faut surtout aujourd'hui se dire en République démocratique du Congo, le véritable défi, c'est un, sortir de la logique humanitaire dans laquelle certains ont tendance à vouloir maintenir la République démocratique du Congo. Non, on doit sortir de la logique humanitaire et arriver dans une logique de résultats, une logique qu'on essaie de... On change donc de paradigme. Ce qu'on doit se dire aujourd'hui dans le système de santé, c'est d'essayer de trouver des moyens innovants pour répondre, pour faire face à nos problèmes. Un autre élément aussi qui est important, c'est d'essayer d'améliorer, ça c'est fondamental, la gestion des ressources publiques qui sont allouées à la santé. Je crois que c'est en faisant un effort d'efficience, d'amélioration de la gestion des ressources que nous allons continuer à engranger des très bons résultats. Ce n'est certainement pas... La réponse ne viendra certainement pas de l'aide extérieure et autres. Je crois que c'est d'abord en interne qu'on doit améliorer l'utilisation des ressources, mobiliser des ressources domestiques pour investir dans le système de santé et renforcer le système.
Quelles ressources, Monsieur le ministre, au moment où on sait que la part allouée à la santé, au budget, est très modique, si je ne me trompe pas, ne dépasserait même pas les 5%.
Mais je crois que là aussi, il faut sortir des clichés. La problématique aujourd'hui n'est pas d'allouer plus à la santé qu'à l'éducation, qu'à la sécurité ou qu'à d'autres priorités ou qu'aux infrastructures. Je crois que dans le contexte dans lequel nous sommes, ma préoccupation en tant que ministre de la Santé n'est pas d'avoir un plus grand budget parce que je ne sais pas, l'arbitrage serait difficile. Ma préoccupation, c'est de dire les moyens qui me sont alloués, eh bien, je vais les utiliser de manière efficiente et d'avoir un maximum, les meilleurs résultats possibles avec le budget qui m'est donné. Et avec le budget qui m'est donné, c'est de donner le meilleur pour redonner au service public de santé ses lettres de noblesse. C'est la philosophie dans laquelle nous travaillons.
En parlant du système sanitaire, Dr Oli Lunga, on fait également allusion à la qualité des hôpitaux que nous avons ici en RDC. Pour Kinshasa, si on prenait juste l'exemple de l'hôpital général ex-Mamayemo, les conditions sont déplorables. Est-ce que vous, en tant que ministre de la Santé, vous avez déjà palpé ces réalités du doigt?
Oui, absolument. Je crois que un de nos plus grands défis, c'est effectivement un défi pour améliorer la qualité des soins. La qualité des soins, il faut savoir qu'il y a plusieurs dimensions. Une des dimensions de la qualité des soins, c'est effectivement d'abord la qualité des infrastructures, la qualité des équipements. On travaille beaucoup aussi sur ce point-là au niveau de la qualité des infrastructures et des équipements. J'ai essayé donc de relancer le programme gouvernemental. C'est le programme de réhabilitation d'équipements des structures sanitaires. C'est un programme qui a été initié par les gouvernements précédents sous le leadership du chef de l'État. J'ai essayé donc de maintenant de relancer ce programme, de mobiliser des ressources additionnelles pour justement essayer d'améliorer la qualité des infrastructures. Ça, c'est le premier point. Au niveau des médicaments, nous avons élaboré une nouvelle stratégie nationale d'approvisionnement en médicaments essentiels. J'ai nommé un nouveau directeur qui est un expert en termes d'approvisionnement des médicaments. Donc avec lui, on espère améliorer la disponibilité des médicaments au chevet du malade. Un troisième volet en ce qui concerne la qualité, c'est le volet des ressources humaines. Je crois qu'au niveau des ressources humaines, il y a un travail énorme qui doit être fait. Je crois que un des problèmes au niveau de la ressource humaine, je crois qu'il y a une pléthore un petit peu des ressources humaines. Il faut qu'on arrive à maîtriser les effectifs au niveau des ressources humaines, qu'on puisse avoir tout un plan qu'on a mis en place pour la formation continue pour améliorer la qualité des ressources humaines. Et je crois que avec une maîtrise des effectifs, une meilleure stratégie en termes de formation continue des ressources humaines, on pourra avoir des ressources humaines de qualité au chevet du malade pour produire des soins de qualité. Un dernier volet qui est important pour la réforme du système de santé, surtout en termes de prestations, c'est d'améliorer la gestion des formations sanitaires. Un des grands problèmes qu'on voit dans les formations sanitaires, c'est pas nécessairement un problème de ressources insuffisantes, je réinsiste de nouveau, c'est un problème de management, c'est un problème de qualité de gestion. Donc la qualité des soins, on la retrouvera aussi lorsqu'on aura amélioré la qualité de la gestion des formations sanitaires.
La RDC a connu beaucoup de maladies, Dr Oli Lunga. Si c'était une personne, peut-être qu'elle serait déjà morte. À quand la mise en place, ici sur place, d'un centre de contrôle des maladies, par exemple?
D'abord, il faut savoir que moi, de formation, je suis réanimateur. Donc, les situations d'urgence vitale me passionne, mais faut savoir que la RDC n'est pas un pays en réanimation. La RDC n'est pas un pays en convalescence. C'est un pays qui est vigoureux et qui fait face à des défis dont l'ampleur est souvent sous-estimée. Alors, par rapport aux défis, surtout au niveau de la surveillance des maladies, il faut savoir que la RDC, compte tenu de sa taille, compte tenu de sa population, de sa localisation géographique, la République démocratique du Congo a un rôle prépondérant, un rôle fondamental à jouer dans l'agenda de la sécurité sanitaire internationale, tant en Afrique que dans le monde entier. Et dans cet esprit-là, nous avons lancé comme initiative, en fait, de créer en RDC un centre de prévention et de contrôle des maladies ici en RDC. C'est une initiative que nous faisons en partenariat avec le CDC Afrique et le CDC, le Centre de contrôle des maladies des États-Unis à Atlanta, parce que nous pensons vraiment que ce serait une opportunité pour nous pour justement être toujours sur le pied de guerre, être toujours dans une position où la surveillance des maladies est optimale, la prévention doit être optimale et surtout la capacité de riposte, elle doit toujours être au maximum.
Monsieur le ministre, la protection de la mère et de l'enfant en ce qui concerne la santé reste un véritable défi, surtout en milieu rural. Est-ce qu'il y a des projections, des plans par exemple pour cette année dans ce sens?
Ça, c'est une excellente question parce que pour nous, la mère et l'enfant, c'est vraiment à la fois les piliers de la société et l'avenir de notre société. Donc, en termes pour la santé de la mère et de l'enfant, le travail le plus important que nous avons fait, c'est d'essayer de mettre fin à la fragmentation de notre système de santé. Dans notre système de santé, il y a beaucoup trop d'ONG, beaucoup trop d'intervenants, de partenaires bi- et multilatéraux qui interviennent sans une certaine coordination. Ce que nous avons essayé de faire, c'est surtout d'essayer d'harmoniser, d'aligner tous ces partenaires par rapport à nos priorités. Nous avons fait de la santé de la mère et de l'enfant notre priorité. Ce sera le premier pilier que nous allons essayer de renforcer pour aller vers la couverture sanitaire universelle. Et donc pour la mère et l'enfant, il y a un programme du gouvernement de renforcement du système de santé que nous menons avec la Banque mondiale et d'autres partenaires pour justement essayer d'améliorer la qualité des soins pour la mère et l'enfant et d'assurer aussi une accessibilité financière. C'est un programme qu'on a commencé, qui est aujourd'hui actif dans 13 provinces, donc c'est près de 30 millions de la population qui bénéficient des soins de qualité accessibles financièrement. Et notre défi, c'est d'essayer de continuer à mobiliser des ressources additionnelles pour passer avec ce programme à l'échelle, commencer ce programme à Kinshasa et puis l'étendre aux 26 provinces du pays.
Il y a beaucoup de bévues dans le domaine médical en RDC. À quand la mise en place d'une inspection, par exemple, générale de la santé?
Eh bien là, justement, dans notre pays, nous avons longtemps été victimes d'un problème de manque de régulation et un manque de respect des normes. C'est la raison pour laquelle, en avril 2017, j'ai mis en place en fait une inspection générale de la santé. Et cette inspection générale de la santé est vraiment une structure qui est équivalente au secrétaire général de la santé. Donc il n'y a pas de niveau hiérarchique entre les deux, ces deux structures d'importance égale. Et bien l'inspecteur général de la santé, son but était vraiment d'essayer donc de restaurer le respect des normes, mais surtout aussi d'amener un changement de mentalité dans l'esprit des professionnels de la santé. Je crois que ce qui est important en termes de mentalité, c'est de revenir à des concepts donc de redevabilité, la transparence, la redevabilité, à la fois dans l'exercice de la médecine. Ça, c'est une dimension déontologique et éthique, mais également dans la dimension de la gestion des ressources publiques. Ça fait partie aussi des domaines de contrôle de l'inspection générale. Donc, il faut savoir que les professionnels de la santé ont également un engagement sociétal et ils ont une exigence de redevabilité pour bien gérer les ressources de la République qui sont mises à leur disposition pour produire des soins de santé de qualité à la population.
Monsieur le ministre, vous avez beaucoup parlé des infrastructures, des structures. Le professionnel de santé mérite une attention particulière quant à sa prise en charge qui, pour la plupart d'analystes, laisse à désirer.
Vous savez que la principale richesse d'une nation, d'une entreprise, c'est les ressources humaines. Donc même dans le système de santé, la principale ressource de notre système de santé, c'est la qualité des ressources humaines. C'est une préoccupation que j'ai depuis mon entrée en fonction. J'avais identifié 3 problèmes majeurs en termes des ressources humaines. Comme je vous ai dit, le premier, le plus important, c'est l'absence de contrôle des effectifs de la santé. À côté de cela, on a parlé des problèmes donc de pléthore et de répartition inégale aussi de ces professionnels de la santé sur toute l'étendue de la République. Donc pour moi, le problème de ce manque de contrôle des effectifs est vraiment la gangrène du système de santé auquel nous essayons de nous attaquer. Ce sera impossible d'améliorer les conditions de travail, les conditions sociales des professionnels de la santé si nous ne résolvons pas le problème de la maîtrise des effectifs. Et à ce titre, le projet actuel de mise à la retraite, une mise à la retraite qui doit être digne, telle que le veut le chef de l'État des professionnels de la santé, c'est une dimension importante pour déjà commencer à maîtriser les effectifs. Un autre volet aussi qui est important dans cette maîtrise des effectifs, c'est de vraiment travailler à refaire une véritable base de données de tous les professionnels de la santé sur toute l'étendue de la République. Vous savez qu'il y a la problématique de beaucoup de personnels fictifs et autres. Pour moi, c'est le problème majeur. Quand on parviendra à le résoudre, je crois que même les tensions sociales dans le secteur de la santé disparaîtront.
Docteur Oli Lunga, quand est-ce qu'en RDC on cessera de mourir puisqu'on a manqué des moyens pour se faire soigner?
La RDC, la couverture sanitaire universelle, c'est vraiment l'objectif du gouvernement. Notre objectif, c'est vraiment d'arriver à une couverture sanitaire universelle, c'est-à-dire où la majorité de la population doit avoir accès à des soins de santé de qualité accessibles financièrement. Alors, la couverture sanitaire universelle, c'est un processus, c'est un cheminement, on ne sait pas le décréter du jour au lendemain, mais c'est vraiment notre priorité au niveau du gouvernement, tout comme en fait le Japon est un très bon exemple. Le Japon, à la sortie de la guerre, avait mis comme objectif principal, avant son développement économique, la couverture sanitaire universelle. Donc le Japon est arrivé à la couverture sanitaire universelle dans les années 60 et le boom économique est arrivé après. Je crois qu'également aussi chez nous en RDC, on devrait désormais se dire que l'objectif, la priorité fondamentale qui sera le vrai levier pour l'émergence de la nation, c'est d'assurer des soins de santé de qualité accessibles à la majorité de la population. Et ça doit être notre objectif pour les prochaines années.
Alors pour terminer, Monsieur le ministre, un mot à tous les Congolais qui entendent le ministre de la Santé, un message pour eux.
Ah, le message pour la plupart des Congolais, je crois que le plus important, c'est de faire confiance dans le système de santé, et deux, d'être exigeant dans leur relation avec les professionnels de la santé. Un patient ne doit pas subir la loi du professionnel de la santé, de l'infirmier ou du médecin qui le soigne. Je crois que tout patient mérite d'être soigné dignement, tout patient mérite d'être respecté dans sa dignité, et donc dans les relations avec les professionnels de la santé, ils doivent être confiants et attendre des professionnels de la santé qui leur prodiguent des soins de qualité.
Docteur Oli Lunga, je rappelle que vous êtes ministre de la Santé publique. Merci d'avoir reçu une grande interview chez vous.
Merci aussi pour cette opportunité que vous me donnez de partager mon point de vue, de partager mon expérience avec mes compatriotes.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais Dr Oli Ilunga Kalinga, ministre de la Santé publique. Réalisation Michel Kifindangoy, assisté de Dona Madimba. Supervision Tina Salama. Présentation Alain Ivon Mouchige. Merci de votre attention. Au revoir.